I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Binge audio.
À quoi ça tient le choix d'un film? Le choix de ce qu'on va aller voir au cinéma ou de ce qu'on va regarder chez nous? Vous allez me dire, ça tient à un millier de critères différents qui varient d'un individu à l'autre. La liste est apparemment infinie. Mais il y a un critère qui, quand même, de mon petit point de vue de spectateur lambda, revient de plus en plus souvent. C'est la durée. Avant chaque film ou presque, la question tombe, combien de temps ça dure? Et très souvent, la réponse tourne autour des 2h30 quand c'est pas carrément 3h qu'on nous annonce régulièrement. Et tout aussi souvent, en corollaire de cette interrogation sur la durée, vient une autre question, plus vaste. Mais pourquoi est-ce que les films sont aussi longs? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les films sont aussi longs? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek, et vous écoutez Programme B. Armé de ces vertigineuses interrogations, je suis allé les soumettre à des cinéphiles, des vrais. Le premier, c'est mon confrère Renan Cros, qui officie notamment sur Canal+, et qui enseigne par ailleurs l'histoire du cinéma, ce qui peut s'avérer utile lorsqu'on se voit sommé de répondre à cette question retorse, pourquoi les films sont-ils aussi longs?
Est-ce que vraiment les films ont été courts à un moment? Ça dépend de quel film on parle, parce que si on prend les films de Quentin Dupieux, ils durent toujours 1h15, et on est très content qu'un film dure 1h15 aujourd'hui. C'est à quel moment le public a accepté que les films durent 2h30, voire 2h40, voire 3h, voire 3h20? Et à quel moment les films ont réussi à faire que le public accepte de voir des films de plus en plus longs? Ou à quel moment, au contraire, aujourd'hui, on va revenir peut-être à un désir de films de plus en plus courts? Donc la question, elle est très vaste, parce que pour le coup, c'est à la fois, est-ce que c'est un désir de l'industrie, un désir du public? C'est tout ça, un peu en même temps. Je pense que la question, elle s'adresse aux blockbusters, en fait. Pourquoi les blockbusters sont-ils aussi longs? Parce qu'il y a une envie de montrer que ces films sont des films importants, sont des films majeurs. Et ça, ça a toute une histoire du cinéma qui lit ça. C'est-à-dire que c'est une façon de transformer les blockbusters en événements de cinéma. Quand James Cameron, en fait Titanic, il a en tête un certain type de cinéma hollywoodien américain qui renvoie au début du cinéma, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'opus magnum, c'est-à-dire la grande œuvre. Et en fait, quand James Cameron fait Titanic, il a en tête Autant n'emporte le vent et Autant n'emporte le vent. Lui, il a en tête un film qui renvoie encore avant, qui s'appelle Intolérance ou Naissance d'une nation de David Ward Griffiths. C'est ce qu'on appelle la grande forme du cinéma muet. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début du cinéma, il y avait... Pour légitimer le cinéma, pour donner aux gens envie d'aller au cinéma, on transformait la salle de cinéma en opéra. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, vous allez au cinéma, mais c'est quand même un peu plus que ça, c'est quand même un peu mieux que ça, c'est de l'opéra, vous allez apprendre des choses, c'est ce qu'on appelle la grande forme du cinéma muet, c'est-à-dire c'est des films qui cultivaient le public, qui prenaient des textes sacrés ou des textes historiques ou des textes littéraires et qui les adaptaient et qui les transformaient. Et donc tout d'un coup, le public venait se cultiver, on prenait plein les yeux, il y avait un grand orchestre, c'était vraiment l'idée d'aller à la grande soirée. Et c'est une façon de s'élever au-dessus du cinéma burlesque, du petit mélodrame, et ainsi de suite. Et donc, ça a formulé une sorte de double entente de l'industrie hollywoodienne. Il y a d'un côté le cinéma de genre, le cinéma qui fabrique des genres et qui sont une forme d'une heure et demie, on va dire. Et puis, il y avait l'opus magnum, la grande œuvre. Ça s'est un peu effondré avec l'arrivée du parlant. Et puis, il va y avoir des cinéastes tout au long de l'histoire du cinéma américain hollywoodien qui vont reprendre cet héritage-là. Donc, Autant d'emporte le vent, donc Titanic. Ce qui se passe aujourd'hui, et ça, on le doit à Marvel, c'est que Marvel s'est dit, nous, on est des films de super-héros, et normalement, les gens nous prennent un peu des films un peu débiles, et en fait, on va vous montrer que ces films sont des opus magnum et s'adressent à tout le monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la culture a switché, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, le socle commun, c'est plus comme à l'époque Margaret Mitchell, Autant d'emporte le vent, le livre que tout le monde a lu, mais c'est le comics. Et donc c'est pour ça que ça c'est des œuvres qui rassemblent tout le monde et des opus magnum. On va voir Spider-Man comme on va voir un opéra aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que Marvel a réussi à transformer son système, son monde, en art classique.
Mais est-ce que la répétition ne vient pas un peu démonétiser justement cette notion d'événement ? Le fait que ce soit un événement tellement rapproché dans le temps, est-ce que ça n'en devient pas un non-événement ?
Ça veut dire donc que le cinéma serait aux mains des villes capitalistes, mon Dieu. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, et c'est le problème de Marvel dans tout ce qu'il entreprend, c'est que, au fond, cette blockbusterisation du super-héros, cette façon qu'a le cinéma de se comporter en opus magnum, à force de répéter la machine, elle va perdre de son côté événementiel. Et en même temps, il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que ces films-là sont des décalques de séries télévisées. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que la série télévisée impose un type de rythme et une structure du récit au long cours, le récit fleuve, ce qu'on appelle la saga, le récit fleuve. Et au fond, le public aujourd'hui vient voir des récits fleuves, vient voir des récits où toutes les 40 minutes, il se passe quelque chose qui fait que le récit repart. Et si vous regardez les films de blockbuster aujourd'hui, ils sont vraiment découpés en 4 actes, avec vraiment 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes, avec à chaque fois vraiment le rythme de série télé, des cliffhangers à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au fond, un film, c'est plus un début, un milieu et une fin, c'est un fleuve au long cours. Et ça, Marvel l'a inventé avec la scène post-générique. Et au fond, à quel moment aujourd'hui le public vient voir un Marvel pour simplement voir la suite du film qui va arriver, c'est-à-dire la scène post-générique? On est arrivé dans un système où le blockbuster aujourd'hui n'est que l'annonce du prochain. Au fond, la question de la durée, elle n'existe pas dans ces blockbusters-là, puisqu'il y a l'action qui est constamment là pour effacer la durée. Et normalement, le principe de ces films, c'est de sortir en disant « je n'ai pas vu le temps passer ». Alors qu'il y a des cinéastes, et plutôt les auteurs, eux, ont plutôt envie de faire ressentir le temps. Que ce soit Martin Scorsese quand il fait Casino, qui est un film très ample, et pareil, Scorsese le fait par rapport à cette grande forme du cinéma muet, il y a quand même la sensation du temps. Ce qui est intéressant, c'est à quel moment les blockbusters, que ce soit Marvel ou DC, vont réussir à nous donner la sensation du temps et non plus simplement la vitesse du temps qui passe. Ce qui est intéressant avec la durée des films, c'est que ce sont des prouesses dans tous les sens du terme. C'est du sur-cinéma, en fait, avec des sur-personnages, du sur-scénario, de sur-émotions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique du cinéma contemporain. C'est-à-dire qu'on a raconté toutes les histoires et maintenant, on raconte des histoires sur des histoires sur des histoires sur des histoires. On arrive même maintenant à un état où les films se racontent eux-mêmes. On a en salle Scream, qui était déjà ça à l'époque, mais qui là, dans cette nouvelle version, revient sur les pas du premier, et Matrix Résurrection, où carrément les personnages se voient à l'écran dans le film.
Mais est-ce que justement, à force de proposer l'expérience de l'expérience de l'expérience, là aussi, on n'en revient pas à ce que je disais tout à l'heure, on désévénementialise le cinéma. Est-ce qu'il ne se banalise pas en justement tentant de se démarquer?
Bah, la vraie question que ça pose, c'est la place du streaming, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que ces films qui durent 3 heures et quelques, on va dire aujourd'hui en moyenne, enfin 2h40, 3 heures, est-ce qu'on est vraiment apte à les regarder chez soi? Est-ce que la durée n'est pas aussi une façon d'obliger les gens à aller en salle? Parce que, il faut le dire, la salle de cinéma est le lieu dédié pour. On coupe son téléphone normalement, on est hors du temps, hors du monde, et c'est le lieu où le temps, justement, ne passe pas. C'est-à-dire que, où le temps est différent. Chez vous, quand vous lancez un film de 2h30, il y a forcément un moment où vous allez mettre pause, vous allez faire autre chose. Donc, ces différentes stratégies, et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que les majors aux États-Unis sont un peu perdus. Ils ne savent pas s'il faut faire des films à consommation rapide pour le streaming ou faire des grandes expériences en salle. Et en fait, on revient vraiment au début du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma muet, les tout débuts des années 20, c'était ce moment-là où on avait des grandes œuvres et puis on avait des petites œuvres, et on s'est rendu compte qu'au fond, peut-être que le public prenait un peu plus de plaisir à voir des mélodrames qui duraient 1h20 parce que, en fait, ils étaient beaucoup plus proches des personnages. Ils ressentaient des choses peut-être plus nouvelles, plus singulière, alors que le blockbuster, les grands films par exemple de Griffith, bah, le film vous dépassait, et puis une fois que c'était dépassé, c'était fini. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose dans ce cinéma de super-héros qui est vraiment le socle de ces films qui durent très longtemps, qui fait que les films en appellent toujours un autre et qu'au fond, on ne voit le film que comme une étape du prochain. Et là, il y a quelque chose qui se perd un peu de l'œuvre, en fait. C'est une œuvre globale. Au fond, moi, j'ai du mal à me souvenir de la différence entre Avengers Endgame, Avengers Infinity War. Enfin, tous ces films sont un peu les mêmes. Et c'est la disparition du réalisateur, c'est-à-dire où est la place du technicien et de l'auteur. Après, c'est intéressant. C'est un vrai changement du cinéma et le streaming est en train de changer les habitudes du spectateur, mais aussi la façon dont on fait les films pour eux.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal, mais tu y as répondu en partie déjà, de voir dans justement une époque où on est dans l'économie de l'attention, c'est quelque chose qui revient souvent, et où justement chaque seconde d'attention grappillée du spectateur est une victoire pour le producteur de contenu, quel qu'il soit, qui arrive à la capter. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal de voir justement des œuvres aussi massives demander autant d'attention dans une époque où on sait qu'elle est chère?
Tout est paradoxal là-dedans, c'est-à-dire qu'au fond, on consomme de plus en plus de formats courts et on désire de plus en plus de récits longs. C'est-à-dire que au fond, l'attention du public aujourd'hui, c'est 40 minutes. C'est un épisode de série télévisée. Et on a des œuvres au cinéma qui, justement, multiplient cet effet-là. Et peut-être que le cinéma est le dernier espace où l'attention peut être autant maîtrisée, puisqu'on est dans le noir, puisque normalement, encore une fois, on coupe tout ce qui est le monde extérieur. Mais il y a quelque chose, là, d'un paradoxe, et qui fait que la salle de cinéma, pour moi, continuera toujours à exister, parce que c'est un refuge, en fait. Et que le téléphone portable, tous ces éléments-là qui nous bombardent d'images, sont des images qui sont connectées au monde, alors que le cinéma, normalement, est déconnecté de la réalité, et il est vraiment la caverne de Platon, c'est-à-dire on regarde un monde qui n'existe pas et on rêve de ce monde en croyant qu'il est vrai. Et je crois que les récits de super-héros et la force de ce cinéma de blockbuster qui dure 3 heures aujourd'hui, c'est aussi de transporter les gens dans un autre monde. Et que peut-être, il y a une victoire du cinéma là, c'est le merveilleux. C'est-à-dire que je suis pas sûr, effectivement, qu'aujourd'hui, un film d'auteur de 3h30 attirait autant de monde en salle. Et quand même, j'espère me tromper. Peut-être qu'un jour, je sais pas, un très grand cinéaste auteur arrivera à emmener les gens 3h30 dans un appartement avec Lou Garrel qui fait la gueule. C'est autre chose. Mais je crois que le merveilleux a besoin de se déployer dans le temps et qu'on a besoin d'autres mondes. Et que ces films de 3 heures nous emmènent dans des mondes, en fait. Et le plaisir du public vient aussi de là.
Deuxième à s'élancer sur le difficile terrain de la durée, un autre confrère, François Coe, qu'on peut lire notamment chez Mad Movies et qu'on peut entendre dans le podcast Discordia, dont il est le taulier. François qui, par ailleurs, mène une vie parallèle comme employé dans un cinéma, mais on va y revenir. Car avant toute chose, je lui ai évidemment à lui aussi demandé pourquoi est-ce que les films sont aussi longs ?
C'est une question que j'ai commencé à me poser très précisément en 2007. J'étais devant le premier Transformers de Michael Bay et je me suis dit, pourquoi ce film qui me raconte la guerre entre des gentils et des méchants robots pour un cube magique dure 2h30? Et ça m'est revenu 2 ans plus tard devant le 2 qui durait 2h30 aussi et qui avait été notoirement tourné à partir d'un scénario torché en quelques semaines avant la grève des scénaristes à Hollywood à cette époque-là. J'ai l'impression que c'est la conjonction de plusieurs choses, en fait. Il y a à la fois effectivement cette fin de cycle qui a été abordée par Lucas et Spielberg eux-mêmes avec la création du blockbuster contemporain, ce qu'on a appelé plus ou moins après les tentpoles, c'est-à-dire des blockbusters mais qui sont carrément les grosses têtes d'affiche de chaque studio pour chaque saison. Et qu'en fait, ces films-là ont pris de plus en plus d'importance par rapport au paysage des années 90 qui était beaucoup plus diversifié, où il y avait beaucoup plus de propositions parce que les sources de revenus étaient, avec la vidéo, étaient beaucoup plus massives, en fait. Et sont arrivées effectivement cette époque-là, la déréliction du format vidéo, la disparition des vidéoclubs, les changements des habitudes de visionnage avec l'apogée des séries contemporaines, avec ce qu'on a appelé le binge-washing, cette façon de consommer, en fait, du divertissement et du contenu de façon massive, tout d'un coup, voilà, voir 3 heures, voire 4 heures de contenu d'affilée, c'était moins pénible, on va dire, qu'avant. C'était moins quelque chose qui dérangeait les gens. Et puis, il y a eu effectivement le grossissement de ces productions. Et en fait, tout s'est concentré là-dessus. Et surtout, avant ça, en fait, les films à grosse durée qui avaient du succès, c'était beaucoup plus rare. C'était quelque chose d'un petit peu bravache dans les années 80 et 90. Maintenant, avec les intérêts économiques, avant, il y avait cette idée, en fait, de caler le plus de séances d'un même film dans une journée. Et maintenant, c'est beaucoup plus pervers, c'est-à-dire que le même film peut occuper plusieurs salles. On est dans un cas de figure maintenant, et il y a beaucoup de tweets qui en témoignent en ce moment chez les spectateurs américains, qui disent « mais moi je veux voir Matrix, ou je veux voir Dread Rocket, ou je veux voir West Side Story, mais mon cinéma de 16 salles ne diffuse que Spider-Man en fait ». Et c'est une occupation de l'espace. Purement et simplement, quoi. C'est, il y a rien qui ne le justifie scénaristiquement. Il y a aucune justification autre que justifier des budgets absolument énormes et inflationnistes et occuper de l'espace, quitte à défoncer les autres concurrents, en fait.
Est-ce que, puisqu'on a, on a commencé à parler un peu de ce que ça donne du côté de l'exploitation, quel impact ça a concrètement sur un cinéma comme dans celui dans lequel tu travailles, toi ?
Alors, le cinéma dans lequel je travaille, c'est un cas pas tant particulier, parce que finalement, c'est la fonction du cinéma aujourd'hui, c'est du divertissement. Moi, je travaille dans une station de ski, qui est un espèce de Club Med géant, où on a fonction d'occuper les gens, en fait. Je pense qu'il faut plus poser la question à des exploitants de multiplex, qui sont vraiment dans des techniques de rentrer des ronds dans des carrés à ce niveau-là. C'est plus une question de... il faut le dernier blockbuster, et tant pis s'il fait 3 heures, tu vois. S'il fait 3 heures, comme je te dis, les multiplexes, ils les mettront dans plusieurs salles, au détriment d'autres films. C'est plus de ça que vient le problème, en fait, là-dedans, quoi. C'est-à-dire que un multiplex va toujours préférer avoir le dernier James Bond ou le dernier Fast and Furious que, voilà, un film plus fragile, un polar français.
Est-ce que d'après toi, ça joue sur peut-être aussi les décisions du public d'aller ou pas voir tel ou tel film ou de regarder tel ou tel film, même chez lui, même une fois qu'il est accessible en dehors des cinémas? Est-ce que ça peut devenir un critère de sélection de se dire, en fait, ça dure 2h40, je vais pas le regarder, ou alors, ah, ça dure moins de 2h, c'est un peu louche?
Ça joue évidemment parce que le cinéma maintenant va vers quelque chose de vraiment industriel, en fait. Quand on va se faire une soirée cinéma, c'est qu'on va prendre une babysitter, c'est qu'on va couler la bagnole dans un parking, c'est qu'on va prendre tant de confiserie. Donc c'est un budget déjà, et puis c'est effectivement ce temps joue, en fait. On sait que les enfants sont pas attentifs en dessous de 10 ans plus d'une heure et demie. Alors j'aimerais que culturellement, tu vois, ça rejoigne l'idéal du cinéma du populaire indien, où les films durent 3 heures pour une raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on a ce côté-là déjà dans le cinéma indien populaire de, on y va en famille, on connaît déjà la bande originale par cœur, on va voir un grand spectacle, ce qu'on appelle le cinéma masala, c'est-à-dire un mélange d'épices, où il y a à la fois de la comédie, du drame, de l'action, du fantastique, du mélo, les meilleurs comédiens qui sont doublés par les meilleurs chanteurs. Et le tout dans une ambiance de vraiment de kermesse. Je sais pas si les auditeurs ont eu la chance de voir un film populaire indien dans ces conditions-là, mais c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, en fait, qui se rapproche un petit peu des élans populaires qu'on a pu voir sur les réseaux pendant la sortie de Spider-Man, où les gens se filmaient en train de hurler parce qu'il y avait un truc qu'on savait déjà très bien, mais qui était confirmé à l'écran et qu'on voyait ensemble. Mais j'aimerais que ça rejoigne ça, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans une espèce de mutation hardcore du paysage industriel cinématographique qui tend vers voilà, le fait qu'effectivement, on va avoir que plusieurs dizaines de films par an, on a eu d'en avoir des centaines, et que le cinéma deviendra une attraction de fête foraine, en fait.
Est-ce que du coup, ça pourrait ouvrir la voie justement à d'autres traditions cinématographiques? Et tu mentionnais notamment le cinéma indien, où là, pour le coup, les durées sont titanesques, et auraient pu peut-être jusqu'à il y a quelques années rebuter le spectateur occidental lambda, qui désormais est finalement assez habitué à voir des films de 3 heures. Peut-être pourra-t-il passer le pas et aller voir des films de 4 heures, de cette culture cinématographique qui est monumentale, mais qui est totalement ignorée de notre côté à nous.
Oui, oui, juste de notre côté à nous, parce que c'est un cinéma qui, par ailleurs, a influencé énormément au-delà de ses frontières, hein, tu vois, des pays comme qu'on connaît très mal, mais qui sont vraiment des industries cinématographiques assez énormes en termes de production et de consommation de films, comme l'Indonésie ou la Malaisie, tu vois, ou même les pays du Maghreb, tu vois, c'est des pays qui ont été très, très, très fortement marqués par le cinéma indien. Mais alors, j'aimerais... Mais c'est quelque chose que j'espérais justement quand les premiers voilà, au-delà des Transformers, c'est surtout quand j'ai vu que les Fast and Furious commençaient à faire 2h30, je me suis dit non, mais c'est... il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a un paradigme qui est en train de shifter, mais j'ai pas l'impression, en fait. J'ai pas l'impression. Je rencontre toujours, par rapport au cinéma indien, toujours les mêmes critères de oui, mais ça dure trop longtemps, oui, mais ça chante et ça danse, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Mais ouais, il y a un trop grand fossé culturel, en fait, entre ces cinématographies-là. Il y a eu une tentative de popularisation de ce cinéma-là au début des années 2000, du cinéma indien, avec des gros blockbusters qui accompagnaient, en fait, le renouveau de ce cinéma qui crevait un petit peu de se répéter et de tourner sur lui-même dans les années 90, avec des films comme Devdas, Lagan, La Famille Indienne, mais ça a été un épiphénomène qui a pas duré très très longtemps, quoi. Et c'est malheureux. C'est vraiment un travail à mener, en fait, hein, pour découvrir le cinéma indien, en fait. Que ce soit, d'ailleurs, du cinéma indie, que les autres cinémas indiens, Tamoul, Telugu, Malayalam, Kannada, etc. Il faut s'intéresser aux particularités de chaque cinéma. Faut en appréhender les codes, faut en appréhender la grammaire, qui n'est pas la même cinématographiquement, qui est parfois un peu motocross, à se prendre en pleine face quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est un travail de curiosité à faire, en fait, et que n'ont pas les spectateurs, que n'ont déjà pas les spectateurs français avec le cinéma, son propre cinéma, alors le cinéma indien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un nouveau marché émergent et qui est devenu le leader en quelques années. La crise du Covid a accéléré ça. Je pense que c'est le marché chinois, en fait, qui est en train d'être de dépasser Hollywood et les cinémas indiens en termes de vraiment de part de marché mondial. Moi, pour observer beaucoup ce nouveau cinéma là. Il y a une grosse tendance vers le divertissement de masse, vers la blockbusterisation de tout, et le tout en plus avec un discours politique qui est assez flippant. Et un de mes réalisateurs préférés, Choyark, maintenant, a signé un des plus gros succès mondiaux l'an dernier en co-réalisation avec deux autres réalisateurs, et c'est un pur film de propagande. Et The Battle of Lake Changjing, qui dure 3 heures, en fait. Le marché chinois va à toute vitesse vers ce genre de truc. C'est des films qui sont complètement transparents, à la fois dans leurs intentions et leurs propos, et dans leur facture esthétique. Ouais, y a pas d'aspérité, y a rien, c'est d'une tristesse absolue. Et moi, ce qui me fait peur, au-delà de la durée des films, c'est ça, en fait. C'est le fait qu'on s'achemine vers des choses sans aspérité, le plus inoffensif possible, et qui sont des armes à peine voilées de propagande, quoi.
Tiens, un exemple récent de lissage politique chinois. On apprenait fin janvier que sur une plateforme de streaming du pays, le film Fight Club de David Fincher a été modifié. La fin anarchiste a tout bonnement été coupée, remplacée par un carton annonçant que le plan des personnages pour déstabiliser la société avait été déjoué par la police. Bon, ça doit vouloir dire que le film est un peu plus court, au moins de quelques minutes. Je sais pas si c'est mieux du coup. Merci à François Coe et à Renan Cro pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alice Ninin. Tous nos épisodes, les anciens comme les prochains, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.